Daheim bin ich jung geblieben, es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt, in der Fremd weit von Mames Augen, hat in Schmutz mich die Gast der Zeugen, geworden ist von mir a Beuleriat. Ich bin...
Double fidélité et double trahison, ou l'histoire d'une traduction. Je suis Isabelle Rosenvomas et vous présente les mémoires rédigées en yiddish par Moshe Rosenvomas, dont vous allez entendre de larges extraits qu'il a lui-même enregistrés. Ma traduction de ce livre, publié en 2004 par Martine Lévy sous le titre « L'Odyssée d'un voleur de pommes » à la cause des livres, sera lu tour à tour par Michel Grossman et par Charles Goldschlager. Ce livre est l'aboutissement d'un long processus d'écritures au pluriel. Moshe a pris sa plume en 1994. Le texte original possédait déjà la division des chapitres en moins, la construction du texte publié à la cause des livres. J'y reconnaissais le récit pensé, soupesé et tenu d'un homme qui s'était frotté à l'histoire avec un grand H. Assez rapidement, j'entrepris une traduction d'une vingtaine de pages qui, tout en paraissant acceptable, me mettait mal à l'aise. Quelque chose comme mon style y était perceptible. Ce premier élan fut donc interrompu aussi bien par cette inquiétude que par d'autres travaux de traduction. Quand je me libérais, Moshe avait repris sa plume et traduit son propre texte, à sa manière, en l'amendant, dans un français que je nomme la langue de mon père, Tateloshn, celle d'un homme que la France avait adopté à l'âge de 35 ans et qui n'avait pas eu le temps d'étudier davantage que quelques mois à l'Alliance française sa quatrième langue, après le yiddish, le lituanien et le russe. Que dire de l'écart qui s'était alors installé entre l'original yiddish et sa déclinaison par l'auteur lui-même? Lorsque je me mis au travail, c'est-à-dire à la réécriture de cette translation, j'étais consciente des exigences de la fidélité au premier comme au second original, et accablée par une certaine opacité qui avait, au cours du processus, rendu le texte plus impénétrable. La langue de mon père était désormais une langue cryptée. Et en tant que telle, elle exigeait une interprétation autant qu'une traduction. Comment, dès lors, sous la menace d'une double trahison, mettre en œuvre l'impératif d'une double fidélité? Je pris le parti de considérer que le travail d'interprétation, conduit en étroite connivence avec Moshe, assurait la fidélité au texte yiddish. Semaine après semaine, pendant une bonne année, assis côte à côte, comme deux bons ouvriers, nous avons décousu, retourné et ourlé chaque phrase. J'apprenais aux côtés de Moshe le métier de retoucheur, puis de tailleur et quelques rudiments de la haute couture. Aucune tournure, aucune reprise, aucun raccommodage ni stoppage que Moshe n'eût validé dans son sens et son aspect, dans ses finitions. Comme il l'a écrit, je savais qu'Isabelle me comprendrait parce que, s'il le fallait, je pouvais lui expliquer en yiddish. C'est cette étape interprétative qui, à mon sens, établit sur des fondations légitimes la fidélité au texte yiddish original. Dans ce travail d'écriture, j'étais attentive à ce que nous faisions en français, et parfois troublée de l'exotisme de la Yiddishkeit, voire des barbarismes qui avaient émaillé la langue. Dans une ultime étape réalisée sous l'impulsion amicale et parfois sévère de notre éditrice Martine Lévy, je compris que le sel de ce texte et le sens de cette vie avaient besoin de cette égratignure faite aux Français. Ainsi, je regrette aujourd'hui d'avoir trahi des générations de coupeurs modélistes immigrés d'Europe de l'Est, en ne maintenant pas le mot de patronage. Au prétexte qu'en français, on parle de patron pour désigner le modèle réalisé en papier ou en toile, préparant à la coupe définitive d'un vêtement. Seul, contre les sectateurs de la rousse et de Littré, contre le bon usage, nos pères et nos grands-pères, façonniers et tailleurs, coupeurs et modélistes, continuaient imperturbablement à dessiner leur patronage. Dieu sait qu'en France, autant que dans la langue française, l'élégance de cette impolitesse est un fil sur lequel le traducteur ne se promène pas sans risque. Un petit signe m'a permis d'espérer que je n'avais peut-être pas tout à fait échoué à atteindre un certain équilibre dans la traversée, puisque le but du funambule n'est pas topographique mais cinétique. Mon ami, l'acteur yiddish Raphaël Goldwasser, nous a demandé de pouvoir lire quelques extraits du livre de Moïse au cours d'une présentation de la culture yiddish. « Que vas-tu lire d'autre ?» lui ai-je demandé. « Un peu de Singer, un peu de Manger et un peu de ton père, » me répondait-il. Qu'est-il advenu enfin, dans cette aventure traductologique, de la fille de son père ? Il n'est pas anodin d'écrire en tant que traducteur particulier les mémoires de l'auteur de ces jours. Notre histoire n'est pas seulement un continuum d'événements liés par des chaînes de causalité. Elle est le résultat d'un travail rigoureux et patient d'élaboration, de reconstruction, de représentation, nourri par le récit familial. J'étais là à façonner, ciseler ce tissu de représentation en tentant de rapiécer ce que je suis avec ce que nous avons été, et de surjeter fil à fil une étoffe élimée, fripée et déchirée, comme le revers du vêtement de l'endeuillé. Raccommoder, rafistoler, remailler cette histoire m'a permis de saisir le fil qui me relie non pas dans l'abstrait, mais de façon concrète aux générations qui nous constituent, à Mère Echaye en particulier, à Tzivier et Aaron en particulier, à Yitzhak, à Chayet Voire, à Chassier Rivke et Baruch en particulier, afin qu'ils m'habitent sans me hanter.